rendez-vous avec l'histoire. Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, rendez-vous d'histoire contemporaine en compagnie de Ronald Hubscher. Nous vous proposons ce mois-ci une troisième et dernière conversation consacrée à la Russie. Après s'être intéressé à la chute de l'Empire tsariste, puis à la montée du stalinisme, nous nous efforcerons ce mois-ci de dresser un tableau de la dictature staliniste de 1928 à 1953. C'est un règne de la pensée unique et du culte de la personnalité qui est mis en place par le petit père du peuple. Nous verrons également que la Russie prend une position de force en politique extérieure. Et puis Ronald nous précisera en fin d'émission ce qu'il reste aujourd'hui du stalinisme. Avant de vous embarquer pour près d'une heure de conversation, je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce rendez-vous avec l'histoire directement sur notre site internet radioroyant.fr. Rendez-vous avec l'histoire, on se retrouve en compagnie de Ronald Hubscher. Ronald, bonjour.
Bonjour.
Le mois passé, vous nous avez déjà parlé de Staline et du stalinisme, principalement de sa personnalité, de son accession au pouvoir, de sa prise de fonction au sein du Parti communiste, du Parti bolchevique. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans une deuxième partie vraiment à la mise en place de la dictature, parce que ça s'est fait effectivement dans des conditions douloureuses, que ce soit pour le développement industriel ou le développement agricole. C'est comme ça que s'était terminée l'émission du mois passé. Toutes ces mesures ont conduit à la mise en place de la dictature. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui ?
Eh bien, c'est l'aspect qui est le plus connu et celui qu'on a le plus retenu de la période stalinienne. Durant cette période donc, où il est le maître du pouvoir, entre les années 28 et sa mort 1953, c'est le règne de la pensée unique, c'est le culte de la personnalité, et tout cela sur un fond, un arrière-fond de répression qui fonctionne un peu en yo-yo. Alors, effectivement, on constate qu'une propagande intense se met en place qui vante les qualités de celui qu'on appelle le guide suprême. Alors, il y aura divers qualificatifs, le génial Staline, etc. On en vient à l'assimiler au héros légendaire de la Russie, à Ivan le Terrible, à Pierre le Grand, qui a fondé Saint-Pétersbourg et qui a modernisé le pays de façon aussi très brutale, par la force. Les intellectuels, les artistes doivent glorifier le régime et surtout son dirigeant. Et j'évoquerai deux films qui sont considérés comme des films cultes. Celui d'Eisenstein qui s'intitule « La ligne générale » et qui fait écho à la collectivisation de l'agriculture, et le film de Dovzhenko qui s'intitule « La terre » et où le problème également de la collectivisation est évoqué. Bien sûr, c'est un hymne à la modernisation, à la transformation de l'agriculture, mais en dépit du cadre très serré dans lequel ces acteurs doivent agir et de l'injonction qui leur est faite de faire cette propagande, par leur talent, ils arrivent à faire des films quand même de très grande qualité puisqu'ils sont parmi les plus connus des cinéphiles et même au-delà. Alors, outre donc cette apologie du dictateur, On voit un peu partout se multiplier ses portraits, ses statues. Et puis en même temps, le contrôle d'une opposition réelle ou hypothétique continue. C'est-à-dire qu'il y a une censure extrêmement sévère. La liberté religieuse qui existait, même si l'État se déclare anti-religieux et si l'Église connaissait des difficultés, l'Église orthodoxe, bon, on pouvait quand même aller dans des églises, même si c'était mal vu, surtout les personnes âgées. La liberté des cultes est abolie. Le parti contrôle de plus en plus les organismes d'État, c'est-à-dire les soviets à ses différents échelons jusqu'au présidium suprême. Les syndicats qui existent sont une courroie, simple courroie de transmission et n'ont aucun rôle de contestation. Et la population est encadrée. Alors elle peut être encadrée de différentes manières. Par exemple, les jeunesses communistes. Ce sont les Komsomol qui vont constituer l'élite future du parti et donc des dirigeants de l'Union soviétique. Et déjà sous les Komsomol existent les pionniers, hein, c'est les plus jeunes. L'enseignement est contrôlé, notamment l'enseignement de l'histoire, évidemment. On réécrit l'histoire et par exemple, on donne un rôle essentiel à Lénine. Cela va de soi, et surtout à son disciple Staline, puisque Staline s'est érigé comme le véritable et le seul disciple de Lénine en éliminant tous les autres. Et cela se voit dans des photos, où il y avait des photos pendant la Révolution où il y avait Trotsky, Staline et Lénine. On efface la photo de Trotsky, il ne reste plus que Lénine et Staline. C'est ce qu'on appelle caviarder.
Caviarder, qu'est-ce
Oui,
que ça
alors
veut dire
c'est-à-dire
caviarder?
caviarder, c'est-à-dire qu'on supprime une partie des photos, soit on les arrange, ça se fait maintenant pour les stars qui apparaissent toujours avec un visage extraordinaire sur les couvertures de Paris Match, par exemple, tout ça c'est retravaillé, ou alors on efface carrément un personnage, et ça s'est fait sous Staline de façon systématique. Enfin, il y a surtout, et c'est le plus grave, le terrorisme d'État, ce qu'on peut appeler un terrorisme d'État, avec la puissance de la police politique. Il y a eu d'abord la Tcheka, auquel a succédé le GPU, et après le GPU, en 1934, est mis en place le NKVD, qui sera extrêmement efficace et redoutable, et qui cadenasse tout l'appareil d'État. Qui fait la chasse à tous les opposants ou soupçonnés tels. Et dans cette période, chacun, ou en tout cas beaucoup de monde, se sentent menacés. Et Staline voit un peu partout des complots. Alors il faut dire que il y avait une certaine réalité malgré tout. Il y a des gens qui n'ont jamais accepté, bon, qui font profil bas par la force des choses. Mais qui, quand il y a un affaiblissement possible d'une façon ou d'une autre, essaye de remettre, si vous voulez, non peut-être pas l'ancien système tsariste, mais en tout cas d'affaiblir le système communiste. Et Staline, qui a vécu dans sa jeunesse une période de comploteurs hein, et de révolutionnaires souterrains et clandestins retrouvent tous ces vieux réflexes de conspirateurs qui réapparaissent. Et c'est le début véritablement d'une phobie des complots qui ne va plus cesser jusqu'à la fin. Et c'est dans ce climat que, en 1934, est assassiné Kirov. Kirov, qui était un des principaux personnages du Parti communiste, considéré comme l'héritier spirituel de Staline, encore les choses deviennent très floues, puisqu'il y a eu des historiens, pseudo-historiens plutôt, qui ont dit que Staline avait voulu assassiner Kirov parce que ça pouvait être un rival dangereux, mais il n'en est rien. Et Kirov est assassiné par un exalté. Et cela va déclencher une véritable chasse aux sorcières dans toute cette période. On voit partout des ennemis. Derrière encore la main de Trotsky, puisqu'en 1933, Trotsky fonde la 4e internationale pour s'opposer à la 3e internationale bolcheviste, l'internationale trotskiste, hein, et qui a fait des adeptes dans le monde entier, les trotskistes. Donc Staline voit derrière cet assassinat encore la main de Trotsky, et d'une façon générale, il pense qu'il y a des gens qui se sont ralliés d'anciens, par exemple d'anciens officiers tsaristes, qui se sont ralliés à l'armée rouge au temps de la guerre civile. Il pense que ces ralliés, ce ne sont pas des gens fiables, et il voit partout la trahison qui l'entoure. Alors c'est une période vraiment de terrorisme, on peut dire, de terrorisme d'État, et elle va culminer en 1936-38 lors des fameux, ce qu'on appelait les procès de Moscou.
Yeah. Vous écoutez Rendez-vous avec l'Histoire en compagnie de Ronald Dubcher, la dictature staliniste.
Alors on arrive donc au... Cela culmine, cette terreur, avec les procès de Moscou, où il y a une purge générale est entreprise dans tous les milieux de la Russie. Purge du parti, purge les anciens bolcheviks, ceux qui ont mené la guerre civile, sont éliminés. On parle de trahison. Purge également dans le parti. Ainsi, les 70% des membres du comité central du Parti communiste de 1934 sont éliminés, expulsés du parti. 90% des généraux, dont Tuchachevski, qui était l'un des héros de la guerre civile et qui est maréchal à l'époque, sont expulsés de l'armée, pour ne pas parler de diplomates, de cadres supérieurs de l'industrie, et même des fidèles, de ceux qui ont pu faire une carrière grâce à ce système, parce que Staline avait établi une bureaucratie très lourde, et il y avait quand même pas mal de monde qui avait pu faire carrière dans le parti. Donc c'est quelque chose effectivement de terrible qui se déroule. Cela dit, et ce sont les contradictions un peu du régime et de Staline, dans l'année 1935, donc, mais il y avait déjà la répression, hein, pas aussi forte qu'en 36-38 au moment des grands projets. Les assises du régime semblent solides. Parce qu'en effet, d'une part, il y a une amélioration générale du niveau de vie dans ces années 35, sans que ça soit considérable, mais une amélioration évidente. Il y a eu la multiplication du nombre des ouvriers, un véritable prolétariat s'est organisé, très nombreux, avec une aristocratie ouvrière, parce que Staline a rétabli, contrairement à ce qui s'est passé au moment de la Révolution et de la période qui a suivi, avant son accession au pouvoir, il y avait une égalité totale. Il y avait des ouvriers qui pratiquaient dans leurs usines l'autogestion. Il n'était pas question d'une hiérarchie quelconque. Dans l'armée, c'était pareil, les officiers. Staline rétablit les hiérarchies, parce qu'il estime que il faut des patrons au moment où il fait ses plans quinquennaux, il est nécessaire qu'il y ait une hiérarchie dans l'armée aussi, qu'on obéisse. Et par conséquent, il y a une aristocratie ouvrière de techniciens qui se sont développés de façon considérable à l'époque. On constate en effet qu'il y a de nombreuses écoles techniques qui sont créées et auxquelles on donne à la technique, à la mystique du plan toujours, on donne la priorité donc à l'enseignement technique. Et donc, il y a une véritable ascension sociale qui se produit dans le pays. Un exemple, Khrouchtchev, qui deviendra par la suite secrétaire du Parti communiste. Khrouchtchev était le fils d'un paysan modeste. Il va pouvoir faire, grâce au régime, des études, hein, comme beaucoup d'ailleurs d'ouvriers, des études de technicien, devenir ingénieur et avoir après un poste de directeur avec de hautes responsabilités. Hein. Donc incontestablement sur ce plan, si vous voulez, il y a un aspect qui est positif. Mais tout cela se fait au prix évidemment d'une grande répression, malgré tout. Tous les opposants sont éliminés, physiquement ou non, et les camps de travail qui avaient commencé déjà à se développer au début des années 28, les camps de travail, font que beaucoup de grands travaux, notamment dans cette période d'industrialisation intense, ont été faits grâce à cette main-d'œuvre forcée dans les camps de travail, ce qu'on appellera par la suite les goulags, une partie des prisonniers meurt parce que le travail est exténuant et parce qu'ils ne sont pas suffisamment nourris, mais il y en a quand même, la majorité sortent au bout de quelques années, et ça reste très arbitraire, de ces camps de travail.
Donc vous nous avez bien présenté que la politique intérieure de Staline fonctionne grâce à la manière forte. Il transforme la Russie, hein, sacrément. Qu'en est-il des relations avec le monde capitaliste, autrement dit, quelles sont ses vues en politique extérieure ?
Eh bien, Staline, contrairement à Trotsky, pensait qu'il était nécessaire d'abord, vu le rapport de force entre les différents pays, établir le socialisme dans un seul pays, à savoir la Russie, mais qu'il était possible à un État socialiste de vivre pacifiquement au sein de puissances capitalistes. Et d'ailleurs, la Russie est reconnue à partir de 1924 par l'Angleterre, ensuite par la France, et puis plus tardivement, elle sera intégrée, elle adhérera à la Société des Nations. Donc, elle devient un peu, au moins sur le plan extérieur, une puissance comme une autre. Alors, pour Staline, il se rend rapidement compte, avec l'élection d'Adolf Hitler, qui devient légalement chancelier par les élections de 1933, qu'il y a un véritable danger nazi et que Hitler a des visées vers l'Est. Donc, il songe à un rapprochement dès 1935 avec la France et l'Angleterre, mais une sorte d'alliance, en quelque sorte. Mais de ce côté-là, il rencontre peu d'écho, car il convient de rappeler que la France et l'Angleterre maintiennent, bien qu'ils aient reconnu la Russie, quand même une méfiance innée à l'égard de ce régime communiste, pour lequel ils ont peu de sympathie. Donc les résultats restent médiocres et sans grand écho. Et Staline alors est déçu, et il est conforté par cette position très en retrait vis-à-vis d'une alliance avec lui des Français et des Anglais, par le fait que lors de la conférence de Munich, qui se tient en septembre 1938, où Hitler a des visées sur la partie nord de la Tchécoslovaquie, les Sudètes, où il y avait une minorité allemande importante et qu'il voulait annexer, conférence au cours de laquelle Daladier pour la France et Chamberlain pour l'Angleterre cèdent aux revendications et aux desiderata d'Hitler, la Russie n'est pas invitée, alors quand même qu'elle a des frontières avec la Tchécoslovaquie, et Staline, qui est un homme pragmatique, très réaliste, va en tirer les conséquences en disant finalement, peut-être que les Français et les Anglais, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait une guerre entre la Russie et l'Allemagne, et puis que les deux puissances soient ainsi affaiblies. Et donc, il va en tirer les conséquences, d'où le pacte germano-soviétique d'août 39, qui a été longtemps décrié, et on peut le concevoir, puisqu'il y a des militants communistes français qui, à ce moment-là, ont déchiré leur carte du parti, mais qui peut se concevoir dans le contexte que je viens d'expliquer. Aussi bien avec ce pacte de non-agression avec l'Allemagne, avec lequel il y a une clause secrète qui permet à la Russie de récupérer une partie des zones qui appartenaient à l'Empire tsariste, c'est-à-dire les Pays-Baltes et une partie de la Pologne, ça c'était une clause secrète. Il y a évidemment, au moment où l'Allemagne attaque le 21 juin 1941 la Russie, c'est la stupeur évidemment de Staline qui s'y attendait pas. Le fait qu'il ait en plus éliminé par ses purges une partie de l'encadrement supérieur de l'armée est un élément aussi qui explique la déroute première des Russes. Leningrad, Moscou, Bakou sont menacés. Mais alors, on voit surgir un élan patriotique énorme, qui est moins, si vous voulez, l'adhésion au régime que le fait que la patrie est en danger, comme l'était sous la Révolution française, c'était le slogan « la patrie en danger ». Et là, on est prêt à tous les sacrifices et mobilisation en masse, levée en masse des hommes entre 16 et 50 ans. Les femmes vont travailler dans les usines. On transfère une partie d'ailleurs des usines puisque les Allemands avancent profondément à l'intérieur du territoire dans l'Oural et en Sibérie. Et donc, c'est une guerre très dure qui va se dérouler sur le front Est. Les Russes, qui avaient en 1942 180 divisions, en ont en 1944 430, ce qui montre l'ampleur de l'effort. Et alors, Staline va être extrêmement populaire durant cette guerre. Staline reste à Moscou, alors qu'une partie même des ministères a déménagé, une partie de la population aussi, parce que les Allemands sont à peu près à quelques 100 kilomètres de Moscou. Il reste à Moscou, ce qui galvanise la population aussi. Comme Churchill, d'ailleurs, est resté à Londres hein, pendant les bombardements, et là aussi a resserré la population autour de ses dirigeants. Il fait des concessions à l'Église, et une partie de l'Église orthodoxe donc se rallie à Staline et exalte la guerre patriotique, la défense de la patrie et du sol russe. Et les gens ont foi dans l'infaillibilité de ses talents militaires, hein, si bien qu'en 1943, il se lui-même maréchal, enfin le comité central propose, mais on sait qu'il n'était pas hostile, et il est véritablement adulé à ce moment-là par la population. Il faut ajouter aussi que derrière cette cohésion russe au moment de la guerre, il y a également un élément qui joue, à savoir la férocité des Allemands. La férocité des Allemands, pour qui tout est permis, les Slaves, pour eux, sont des sous-hommes. Donc de nombreux Russes sont déportés en Allemagne, par exemple. On les fait travailler aussi dans des camps allemands. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, cette sauvagerie allemande, qu'il y ait eu beaucoup de partisans qui ont combattu derrière les lignes allemandes et dans les zones occupées. Alors l'année 1942 est un véritable tournant. Et on peut dire qu'à ce moment-là, la Russie est quasiment seule hein, à soutenir l'effort de guerre. Hein. Et c'est là où se déroule l'épisode de Stalingrad, qu'on a considéré à juste titre comme un tournant dans la guerre. Stalingrad, donc, entre septembre 1942 et février 1943, où 1 700 000 hommes s'affrontent, côté allemand et côté russe. Alors, bon, c'est la victoire, le triomphe de Staline. Mais on se retrouve un peu d'une autre manière au lendemain de la guerre civile et de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une Russie complètement exsangue, de nouveau. On estime que les pertes humaines ont été de l'ordre de quelques 20 millions de morts. Et lors du siège de Leningrad par les Allemands au début de la guerre, siège qui a duré quand même 900 jours, il y a eu 700 000 morts à Leningrad, dont 30 000 dus uniquement au bombardement, le reste étant dû à la famine, on disait, etc. Il y a eu des famines, on a évoqué des actes de cannibalisme, ça a été quelque chose d'épouvantable. Et enfin, il y a eu à peu près 2000 villes qui ont été détruites.
Vous êtes à l'écoute de Ronald Dubcher et de ses rendez-vous avec l'histoire. Ce mois-ci, nous évoquons la dictature staliniste de 1928 à 1953.
Donc sur le plan extérieur, après la guerre, Staline a une position de force, quand même. Et sur le plan intérieur, alors quelle orientation donne-t-il au régime ?
Oui, alors effectivement, Staline rencontre Roosevelt et Churchill lors des conférences de Téhéran et d'Yalta, où il permet d'avoir ses zones d'influence et notamment ce qu'on a appelé les démocraties populaires. Alors, dans une position évidemment de grand vainqueur, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la question effectivement que vous posez sur le plan intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir un peu sortir de cette atmosphère de terreur qui existait avant la grande guerre patriotique, comme on l'appelait ? Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fallait reconstruire le pays, et reconstruire le pays suppose de nouveaux sacrifices. Ajoutez à cela la guerre froide. Churchill parle du fameux rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe. C'est le début de la guerre froide. La Russie est de nouveau isolée. Et du coup, Staline va devenir encore plus autocrate, si possible, qu'il ne l'était auparavant, avec toujours cette obsession des complots, des soupçons, des agents secrets américains ou anglais qui vont comploter avec des Russes qui ne sont pas d'accord avec le système. Et finalement, c'est lui qui dirige tout seul le pays, puisque le comité central du Parti communiste ne sera réuni qu'en 1952. Donc pendant 5-6 ans, c'est lui qui dirige de tout. Il se méfie même des chefs militaires. Les chefs les plus glorieux comme Joukov, le maréchal Joukov, qui a été un des héros de cette Deuxième Guerre mondiale. Il s'entoure simplement de quelques responsables, dont Beria, qui à partir de 1938 est devenu le chef du NKVD, de la police politique, un homme redoutable, de Molotov, qui était le ministère des Affaires étrangères, et de Khrouchtchev, dans lequel il a encore quelques confiances. Alors, toute critique devient suspect. Quand on parle mal de Staline, on devient un suspect, on est arrêté, et les goulags se remplissent à nouveau. Et la période, ça a été le point d'orgue, le zénith des goulags entre 1948 et 1952. Ça a été des déportations, donc systématique, déportation aussi des Tatars, de populations entières, les Tatars parce qu'ils soupçonnaient, ce qui n'est pas tout à fait faux, en tout cas pour certains, d'avoir collaboré avec les Allemands, déportation aussi des Allemands de la Volga, des Allemands s'étaient installés dès la fin du 18e, 19e dans la Volga, ils paraissent suspects, et donc ils sont également déportés. Ce que l'on voit aussi, c'est que le régime se teint de plus en plus de nationalisme grand russe, c'est-à-dire la Russie d'abord, et les populations, les Tchétchènes, les Géorgiens, etc., c'est un peu des gens de seconde zone par rapport aux Russes. Ce qu'avait fait déjà la politique tsariste, là on trouve, en dépit de régimes différents, une continuité quand même qui est assez étonnante. Et à partir de 1948, il va entrer dans une période, dans une campagne de lutte contre ce qu'il appelle le cosmopolitisme. Et justement avec ce repli en quelque sorte sur la Russie, et qu'il faut voir aussi quand même dans le cadre d'un nouveau cordon sanitaire avec le rideau de fer. Il y a toujours cette tension, cette guerre froide avec les puissances occidentales. Donc le cosmopolitisme, c'est-à-dire tous ceux qui auraient pu être contaminés par des idées venant des pays occidentaux dont on se méfie. Alors déjà, par exemple, les brigades internationales. Les volontaires russes qui sont allés combattre en Espagne contre le franquisme, les fameuses brigades internationales, où Staline a d'ailleurs, au passage, utiliser les éléments communistes contre les éléments du POUM, c'est-à-dire les anarchistes et les trotskistes. Hein. Ils se sont éliminés eux-mêmes. Vous voyez toujours cette espèce d'obsession et de lutte de fractions qui a existé depuis le début, en somme, de l'avènement du communisme et surtout de Staline. Hein. De Staline, il faut bien le dire. Et donc, les gens qui ont été dans les brigades internationales sont suspects. Ils ont été contaminés par une idéologie occidentale, donc on les arrête. Les prisonniers russes faits par les Allemands, qu'on ne les ait pas tués, comme ce fut souvent le cas, qui reviennent, c'est suspect. Ce sont peut-être certains des agents de l'Allemagne occidentale, hein, de la RFA, la République fédérale allemande. Et puis vient s'ajouter alors, ça a été le point d'orgue, ça, en janvier 1953, ce qu'on a appelé le complot des blouses blanches. À savoir qu'il y a un antisémitisme d'État qui se développe, alors que la Russie a été l'une des premières à soutenir la création de l'État d'Israël en 1947. À partir du moment où il y a des relations étroites qui s'instaurent entre les Américains et Israël, le pays devient suspect et tous ceux, un Israélien égale un juif, hein, même s'il est russe depuis des générations. Et donc, ils font partie de ce qu'on appelle le complot sioniste international. Hein, c'est toujours la thèse du complot. Et ces médecins, dont une partie tout au moins sont des juifs, sont soupçonnés d'avoir voulu assassiner des dirigeants du comité central et même d'assassiner Staline. Donc, procès, et les procès comme ils ont lieu sous Staline, c'est-à-dire que aveu forcé par la torture, hein, on n'hésite pas à utiliser la torture, et où les accusés. Alors là, c'est un vrai problème qui se pose, parce que soit ils avouent à bout de force, ils avouent tous les péchés du monde, en quelque sorte, n'importe quoi qu'on pourrait leur dire. Et alors Molotov, qui était un des disciples de Staline, des plus fidèles de Staline, disait « Oui, c'est tellement énorme, finalement, ce qu'ils peuvent avouer, c'est pour montrer que le procès qu'on leur fait ne tient pas debout. » Vous voyez, on arrivait à ce genre de choses. Enfin, toujours est-il que c'est les aveux sous contrainte, hein, pour employer un euphémisme, et que ces médecins, et d'une façon tout générale, les juifs sont suspects. Il faut me signaler également que le soupçon de Staline, qui vit de plus en plus en reclus, hein, qui est d'ailleurs malade, s'en prend à ses proches, avec lesquels pourtant toute sa parenté géorgienne et le culte, sa première femme, il s'était marié, elle est morte en 1932, et sa deuxième femme appartient à des familles géorgiennes et qui recevaient, enfin, il y avait une atmosphère de familiarité, etc. Ils s'en prennent même à eux. Il y a une de ses belles-sœurs qui est juive. Alors, il y a un certain nombre de juifs dans cette famille de géorgiens qui est déportée pendant quelques années dans un camp. Alors, on soupçonne beaucoup Beria d'avoir manipulé. Bon, est-ce que Staline peut être manipulé? Ça, c'est un problème. Mais d'avoir inventé toute une série de complots, des gens qui parlaient mal contre lui, qui étaient en relation avec des diplomates étrangers, etc. Toujours est-il que même des membres de sa propre famille sont atteints. Et finalement, de plus en plus isolé, il s'enferme, il ne voit plus guère personne, et il finit donc par mourir 1er mars 1953 dans sa datcha d'une hémorragie cérébrale. Il est embaumé, son cercueil est placé dans le mausolée de la Place Rouge. Et quelques jours après ses funérailles, des millions de personnes viennent défiler devant son cercueil et il devient un véritable objet de culte. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, vous voyez, il y a une contradiction entre cette terreur, mais au fin fond des campagnes ou ailleurs, soit des gens disaient « il avait raison », il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, soit il n'en savait pas, et il voit surtout Staline comme celui qui a construit le socialisme et qui a gagné la guerre. Et vraiment, il y a eu une véritable douleur et tristesse profonde chez beaucoup de Russes, pour ne pas parler aussi à l'étranger. C'était le grand Staline.
Oui, il n'est peut-être pas tout à fait mort. D'ailleurs, on parle même d'une deuxième mort à l'occasion du 22e congrès du parti. Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire du parti, a prononcé cette allocution. Pendant les années qui ont suivi la mort de Lénine, les normes de la vie du parti furent grossièrement déformées dans une ambiance de culte pour la personnalité de Staline. Staline a limité la démocratie à l'intérieur du parti et des soviets, et il en a fait la norme de la vie du parti et de l'État. Il a grossièrement foulé aux pieds les principes léninistes de direction, admettant l'arbitraire et les abus du pouvoir. Staline pouvait dévisager un camarade avec lequel il siégeait à une même table et lui dire « Vous avez aujourd'hui le regard fuyant ». Et après cela, on pouvait déjà considérer que le camarade dont le regard s'était mis à être fuyant était suspect. On a exterminé beaucoup de commandants et de propagandistes politiques remarquables de l'armée rouge. Certains camarades ont passé de nombreuses années en prison. On les persuadait par des procédés particuliers qu'ils étaient des espions allemands ou anglais. Et ça, vous l'aviez bien dit, Ronald. Certains d'entre eux avouaient, même dans le cas où on leur annonçait que l'accusation d'espionnage ne tenait plus. Ils insistaient eux-mêmes sur leurs anciennes dépositions pour en finir au plus vite avec les tortures et trouver plus rapidement la mort. Fin de citation.
Ah oui, ce rapport Khrouchtchev a été un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein, et à tous les points de vue. D'abord, il a été tenu secret, mais très vite, il a été vanté. Des journaux américains l'ont rapporté. Le Parti communiste français a différé longtemps la connaissance de ce rapport. Et ce qu'il faut dire, c'est que Khrouchtchev, en somme, fait de Staline un bouc émissaire, ce que c'est, si je puis dire, le juste retour des choses, puisque Staline lui-même cherchait toujours des boucs émissaires, mais il se dédouane facilement, parce que, en somme, Staline serait responsable de tout, alors qu'on peut effectivement s'interroger sur le fait que c'est peut-être le système lui-même qui a abouti à la dictature, du prolétariat. Mais dictature du prolétariat, ça ne voulait pas dire enfermer tout le monde. Ça voulait dire que la bourgeoisie qui jusqu'alors était au pouvoir, eh bien, elle devait passer le pouvoir par la force, évidemment, hein, parce qu'elle ne se laissait pas faire, au monde ouvrier. Donc, ce système qui s'est mis en place, la matrice se trouve, on peut dire, dans la période léniniste, à la fois sur le plan théorique, lutte des classes, dictature du prolétariat, et sur le plan historique, puisque durant l'avènement des révolutions, on peut considérer que les bolcheviques, dits communistes par la suite, ont toujours été vulnérables, tant sur le plan intérieur, parce qu'il ne faut pas négliger non plus les réalités des oppositions, même à l'intérieur du parti bolchevique et des règlements de compte, et les oppositions extérieures qui n'avaient pas toujours des armées. Donc c'est dans un contexte beaucoup plus large que la seule responsabilité de Staline qu'il convient de replacer ce rapport qui exonère Khrouchtchev, qui lui-même a joué un rôle dans la période de la terreur, un rôle éminent, se dédouane à très bon compte.
Radio Royan, les rendez-vous avec l'histoire, Ronald Lupcher.
Et pour clore cette deuxième partie d'émission sur Staline et le stalinisme, quelle est l'image de Staline et que reste-t-il du stalinisme après sa mort ou ses morts ?
Eh bien, on peut parler du fantôme de Staline d'une certaine manière. Figurez-vous qu'en 2000, la télévision soviétique d'État, par une chaîne privée, a fait un sondage auprès de un échantillon de Russes sur la personnalité la plus populaire. Alors, ils ont nommé des artistes russes, des écrivains, mais en première position, Staline. Ce qui a créé un émoi dans la population en disant ce sondage a été trafiqué, c'est pas possible. Ça a été refait auprès d'un échantillon plus large et qui semble plus objectif, en tout cas, je ne sais pas, l'objectivité si elle était déjà occultée lors du premier sondage. Toujours est-il que ce deuxième sondage met Staline en troisième position, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et figurez-vous qu'il devient même objet de marketing, Staline, puisque on fabrique des téléphones portables à l'effigie de Staline. Il reste pour beaucoup de Russes, d'abord il y en a qui sont encore des communistes, il y a un parti qui existe communiste, il n'est pas très, au point de vue quantitatif, pas très important, mais il existe. Il y a des nostalgiques de la période stalinienne. Et il est donc, il conserve pour beaucoup l'image, il est l'image d'un personnage vraiment mythique en quelque sorte. Et on retient surtout de lui la victoire contre le nazisme hein, et le rôle qu'il a joué dans la Grande Guerre patriotique. Enfin, il y a aussi la réécriture de l'histoire dans des manuels scolaires. Dans l'un d'eux, on trouve cette phrase. Staline a été le bâtisseur de la société la plus juste du monde et d'une grande puissance industrielle. Et on peut se demander s'il n'y a pas non plus une réhabilitation officielle, parce que Poutine avait rendu un hommage à Staline comme vainqueur de la grande guerre patriotique contre le nazisme. Pour autant, Poutine n'a pas fait le devoir d'inventaire qui s'impose sur toute cette période sombre, toute la période sombre qui occupe une grande partie de la vie de Staline et de la Russie. Alors, je voudrais terminer par deux remarques. D'une part, c'est de dire que la révolution russe devait logiquement aboutir au système stalinien, à savoir le passage d'un pays, d'une économie agricole arriérée, sous-développée, à une économie moderne, avec une puissance industrielle considérable, et menée au pas de charge, en une vingtaine d'années, quoi, la révolution industrielle, alors qu'en en Angleterre ou en France, elle s'est effectuée sur 40, 50 ans, à peu près. Donc tout ce passage rapide à la hussarde ne pouvait qu'entraîner la coercition si l'on voulait arriver à ce but final de faire de la Russie une grande puissance industrielle. Et puis plus largement, je voudrais dire qu'il semblera qu'il y a peut-être en Russie des tendances lourdes, à savoir que c'est un pays qui n'a pas connu de démocratie à l'occidental. Il y a eu l'autocratie tsariste, hein, pouvoir absolu, autoritaire. Il y a eu ensuite la période stalinienne du communisme. Et il y a eu une police politique qui existait déjà très puissante sous les tsars, continuée sous Staline. Il y a eu le fait que la Russie tsariste avait une partie, au-delà de la Russie proprement dite, étendait son influence sur les pays baltes, sur une partie de la Pologne. Staline a étendu l'influence de la Russie sous une autre forme politique, bien entendu, mais sur le plan territorial, la reconquête des pays baltes, une partie également de la Bessarabie. Il se situait dans la continuité, on peut dire, du tsarisme. Et enfin, si l'on regarde Poutine à l'heure actuelle, eh bien, Poutine, il suit les traces, si je puis dire, de ses ancêtres glorieux ou peu glorieux. Et il suffit de songer à la guerre en Tchétchénie, qui s'est déroulée de façon extrêmement sauvage. Il suffit de Pensez aussi à l'annexion de la Crimée, bien que la Crimée ait fait partie, bien entendu, de la Russie, mais entre-temps, bon, on a créé d'autres frontières et ça devenait l'Ukraine, annexion de la Crimée. Les pays baltes, en ce moment, qui manifestent beaucoup d'appréhension, peut-être de façon exagérée, à l'égard des visées de Poutine, eh bien, nous avons quand même une ligne continue, là, de, quel que soit le régime politique. Pour Poutine, on pourrait encore parler de la répression intérieure. Bon, ça n'a rien à voir avec la période stalinienne, mais des journalistes assassinés, des télévisions qui sont supprimées sauf la télévision d'État, des journalistes tracassés, et dernièrement, eh bien, des personnalités des services secrets, des officiers des services secrets russes accusés de trahison, de haute trahison au profit des Américains. Alors on retrouve cette thèse sans arrêt du complot qui se développe. Et alors on peut poser la question finale, éternelle Russie.
Exactement. Merci beaucoup Ronald pour cette présentation du stalinisme et de la Russie de Staline. Je le rappelle, en 2 épisodes que vous pouvez retrouver sur notre site internet radioroyant.fr. Merci beaucoup Ronald, à bientôt pour soit un prochain rendez-vous avec l'histoire, soit peut-être pour Caméra en campagne.
Eh bien, je l'espère vivement et je vous remercie aussi.
Au revoir.
C'est ainsi que s'achève ce rendez-vous avec l'histoire consacré à la dictature staliniste. Pour compléter cette conversation en compagnie de Ronald Dubcher, vous pouvez vous plonger dans la lecture de L'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Ce roman écrit clandestinement de 1958 à 1967 décrit de l'intérieur le système carcéral communiste mis en place en Union soviétique. Je vous recommande également la lecture d'A marche forcée de Slamovir Ravitch. Ce roman paru en 1956 a pour titre original The Long Walk. En 1941, une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du cercle polaire et décide de gagner l'Inde à pied. Né en 1915 à Pinsk, alors territoire russe puis polonais et désormais biélorusse, Slavomir Ravitch aurait été de ce groupe d'évadés. Narration authentique ou inspirée, ce récit n'en reste pas moins un très intéressant témoin de vie au goulag, puis un récit de voyage contre la mort. Sachez que ce livre a également été adapté au cinéma en 2011 sous le titre français Les chemins de la liberté. Enfin, la série télévisée Apocalypse, dont il a été question dans le rendez-vous avec l'histoire sur la montée du stalinisme, est toujours d'actualité pour la période de 1928 à 1953. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Rendez-vous avec l'Histoire, à l'heure actuelle au nombre de 7, sur notre site internet radioroyant.fr. C'est ainsi que s'achève ce rendez-vous avec l'histoire consacré à la dictature staliniste. Pour compléter cette conversation en compagnie de Ronald Dubcher, vous pouvez vous plonger dans la lecture de L'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Ce roman écrit clandestinement de 1958 à 1967 décrit de l'intérieur le système carcéral communiste mis en place en Union soviétique. Je vous recommande également la lecture d'A marche forcée de Slamovir Ravitch. Ce roman paru en 1956 a pour titre original The Long Walk. En 1941, une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du cercle polaire et décide de gagner l'Inde à pied. Né en 1915 à Pinsk, alors territoire russe puis polonais et désormais biélorusse, Slavomir Ravitch aurait été de ce groupe d'évadés. Narration authentique ou inspirée, ce récit n'en reste pas moins un très intéressant témoin de vie au goulag, puis un récit de voyage contre la mort. Sachez que ce livre a également été adapté au cinéma en 2011 sous le titre français Les chemins de la liberté. Enfin, la série télévisée Apocalypse, dont il a été question dans le Rendez-vous avec l'Histoire sur la montée du stalinisme, est toujours d'actualité pour la période de 1928 à 1953.